Vous écoutez RTL.
7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Madame Martichoux, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Jean-Yves Le Drian se démène pour tenter de faire respecter la trêve en Syrie, hier encore à Moscou. Il a appelé le régime syrien à accepter la trêve. Mais que peut-on attendre de Assad? Il ne lâchera rien face aux rebelles.
C'est vraiment la question, c'est qu'au fond, on est dans une guerre civile et on est partie prenante d'une guerre civile aujourd'hui. On s'est engagé dans cette affaire contre le djihadisme, on s'est engagé contre l'extrémisme islamique et donc on avait un combat et ce combat a été, je dirais, mêlé à un autre combat qui était la légitimité de Bachar el-Assad en matière d'exercice du pouvoir en Syrie. Et on voit bien que les Russes qui ont soutenu notre combat contre le djihadisme, ne le soutiennent pas contre Bachar el-Assad. Et donc, dans cette guerre civile, on est partie prenante. Il n'y a pas d'issue s'il n'y a pas un dialogue avec les deux parties prenantes. Mais, et donc, il faut discuter avec Bachar et les Russes.
Est-ce que les Russes, qui sont les parrains de Bachar el-Assad, le contrôlent vraiment? Parce qu'il est dans cette guerre contre les rebelles, je disais, il ne lâchera rien. C'est presque devenu finalement sa raison d'être de les combattre jusqu'au dernier maintenant.
Je pense que les Russes ont quand même les moyens de pouvoir le convaincre, parce que d'abord ils l'ont sauvé. C'est quand même les Russes globalement qui lui ont redonné cette existence minimale à partir de laquelle il a refondé sa stratégie et cette stratégie violente et guerrière. Donc je pense que les Russes ont un pouvoir sur lui qui reste très fort. Il faut forcément mettre autour de la table les différents belligérants. On est dans une guerre civile.
Mais il y en a tellement des belligérants. Je veux dire, on n'en compte plus. Il y a pas seulement les Russes, il y a l'Iran derrière, il y a la Turquie, il y a les États-Unis, il y a les Kurdes, il y a l'Arabie Saoudite. Comment sortir? C'est un terrain de jeu, si je puis dire, c'est un mot atroce, régional, mais où tout le monde est là, c'est inextricable.
Mais il n'y a que, visiblement, un dialogue avec Bachar el-Assad pour parler avec l'un des belligérants les plus violents, les plus criminels. Donc, la guerre, c'est quelque chose d'aujourd'hui de terrible. On emploie ce mot à tout va aujourd'hui. On se rend bien compte que cette guerre est destructrice, c'est meurtrière et criminelle. Mais tant qu'on ne parle pas avec les belligérants, on n'a aucune chance d'arrêter ce processus qui est un processus d'extrême violence.
Donc, il faut qu'on aille parler avec Assad.
Donc, il faut parler avec l'ensemble des parties prenantes. Mais nous ne sommes pas dans une guerre traditionnelle, nous sommes dans une guerre civile. Il s'agit aujourd'hui du pouvoir en Syrie. Il y a ceux qui sont avec Bachar et ceux qui sont contre Bachar. Et si on ne parle pas avec les deux parties, on n'a aucune chance de travailler pour la paix. La paix, ça se construit parce qu'il y a un moment ou un autre une volonté de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il y aura accélération des processus jusqu'à extinction des populations.
Il ne s'agit pas seulement de parler avec Bachar, il faut aussi qu'il nous parle à nous, qu'il nous écoute.
Bien sûr, les intérêts au-delà des siens propres. Mais ça veut dire que nous, quel est notre combat dans cette affaire? Est-ce que c'est la fin de Bachar ou est-ce que c'est la paix? C'est ça la vraie question. Moi, je pense que c'est la paix. Vous avez fait référence tout à l'heure à mon travail sur la paix. Je crois qu'aujourd'hui, on a complètement oublié ce qu'est la valeur de la paix, ce qu'est l'essentiel de la paix. On oublie que la guerre, c'est la destruction de tout.
Donc il faut réintroduire Bachar dans le jeu, complètement, en lui promettant de rester à la tête de son pays, par exemple.
Je pense que c'est pas inenvisageable pour un certain temps, sur une durée limitée, il y aura des négociations à avoir. Mais de toute façon, si on veut la paix, il faut parler avec lui. Autrement, disons-le clairement, nous sommes dans une guerre civile et nous sommes engagés dans un camp contre l'autre.
Donc il faut parler avec celui qui massacre encore des centaines de milliers de personnes aujourd'hui dans la plaine orientale de la Ghouta.
Puisque tous ces drames existent, aujourd'hui nous sommes partie prenante de cette guerre. Et donc nous ne sommes pas innocents de ce qui s'y passe. La seule façon de se dire aujourd'hui de construire une issue, c'est de se dire quel est notre objectif. Et l'objectif, est-ce que c'est la fin de Bachar ou est-ce que c'est la paix? Pour moi, l'objectif, c'est la paix. Parce que c'est à partir de la paix qu'on peut construire les valeurs. C'est la paix qu'on fait du développement. C'est la paix qu'on protège l'humanisme auquel la France tient. Et donc c'est sur la paix qu'il faut se battre.
Vous continuez à dire que le monde n'a jamais été aussi dangereux?
Je crois, oui. Je pense qu'il est dangereux parce qu'on a un retour des États-puissances. On a un retour au premier plan de la Russie, de l'Iran, de la Turquie. On a toutes les tensions qui sont déjà des tensions traitées à l'ONU. Et je pense notamment à la Corée. Mais il y a toutes ces tensions géographiques qui apparaissent. Donc c'est pour ça que je bâtis une fondation et que le 14 et le 15 mai, je vais rassembler 25 leaders de haut niveau, 7 anciens premiers ministres, de nombreux professionnels de la diplomatie pour parler de la paix et pour essayer de faire en sorte qu'on anticipe un certain nombre de crises. Aujourd'hui, la frontière entre la Tunisie et la Libye,
qui s'appelle Leader pour la paix.
Leader pour la paix, hein, où je veux qu'on fasse une pédagogie de la paix. Je veux qu'on explique les dangers.
C'est un peu anxiogène, votre discours.
Si on n'a pas conscience que la paix, c'est extraordinairement destructif, on ne peut pas dire je fais la guerre contre...
Si on n'a pas
conscience que la paix est la réponse à la destruction. La paix, c'est au fond le préalable à tout développement. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a une sorte de banalisation de la guerre. On fait la guerre contre tout, on fait la guerre contre le chômage, on fait la guerre contre l'insécurité routière. La guerre, c'est l'ennemi numéro un.
Ne pas banaliser le mot, mais vous voulez intervenir, vous voulez aller sur le terrain, vous voulez
l'opinion...
réfléchir avec des experts.
Non, nous voulons alerter, nous sommes des lanceurs d'alerte. Je lance l'alerte, la Tunisie est en train de dériver, la Tunisie peut être l'espace politique où l'islamisme peut conquérir le pouvoir de manière démocratique. Il faut aider la Tunisie, et la Tunisie c'est notre frontière. Et aujourd'hui on voit qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire la pédagogie, il faut faire la pédagogie de la frontière entre la Libye et la Syrie, il faut faire la pédagogie de ce qui se passe entre le Mexique et les États-Unis. On est en train de construire des murs, est-ce que l'avenir de la coopération internationale, c'est la construction de murs. La violence se développe, il faut une pédagogie de la paix.
Et c'est sur ces enjeux que vous voulez alerter avec votre fondation. Jean-Pierre Raffarin, vous avez pris du recul, on le voit bien, avec la politique nationale. Ce sont ces grands enjeux qui vous intéressent, mais néanmoins, rien ne vous échappe. Est-ce que vous avez apprécié le style de Laurent Wauquiez devant les étudiants de Lyon ?
Pas vraiment, non. Si vous me ramenez à la politique, j'y reviens volontiers, parce que ça a toujours été ma passion.
C'est votre
donc
famille.
Je tiens à garder des distances, mais néanmoins... Ce bavardage populiste m'a choqué et donc j'ai soutenu Alain Juppé. Je dis bavardage populiste parce qu'au fond, c'est un amalgame entre des mots grossiers, des idées simplistes et puis des attaques personnelles. Donc moi, j'ai toujours été contre les attaques personnelles. Qu'il attaque Darmanin alors qu'il y a un processus de justice qui est en cours, on laisse la justice faire son métier. Attaquer Alain Juppé comme il l'a fait brutalement, c'est pas bien.
D'une extrême vulgarité, a dit l'intéressé.
Ouais, exactement. Donc je partage ce que dit Alain Juppé sur ces sujets. Donc j'appelle Laurent Wauquiez à plus de sagesse, plus de calme. Il a la culture qu'il devrait utiliser à son endroit plus facilement d'une manière plus généreuse.
C'est une faute de langage, une faute de comportement.
C'est une faute de comportement, c'est une faute d'attitude. J'espère que ce n'est pas une dérive de brutalité, une dérive de politique vers un climat politique dur, d'attaques permanentes. J'ai encore vu hier des attaques personnelles contre le chef de l'État. Quand on prétend vouloir gouverner le pays, on ne développe pas les attaques personnelles. Un chef de l'État, ça se respecte. On peut contester sa politique, on peut expliquer...
Mais vous dites que ce n'est pas du niveau d'un leader qui veut être candidat à présidentiel ?
Bien sûr, on doit respecter la fonction à laquelle on prétend. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, le débat politique a besoin de sérénité. Alors, tout ça nous éloigne de la vraie politique. Moi, je reste aux Républicains, pourquoi ? Parce que le vrai débat politique, nous allons l'avoir sur la ligne européenne. Quelle sera la ligne européenne ? Et je souhaite...
Quelle est votre ligne rouge là-dessus, sur l'Europe ?
Moi, il est clair que c'est la réforme démocratique de l'Europe telle que l'a envisagé Emmanuel Macron, qui me paraît être la ligne aujourd'hui de réforme à partir d'une inspiration franco-allemande. Donc cette ligne de réforme de l'Europe, et pour faire de l'Europe une priorité stratégique de la France, ça me paraît être la bonne ligne.
À quelles conditions vous pourriez soutenir une liste pro-européenne du centre, on a dit de Daniel Cohn-Bendit à Alain Juppé, qui serait finalement la liste majoritaire ? À quelles conditions vous pourriez le soutenir ? Et donc dévier de votre famille, finalement.
Je reste dans ma famille parce que je souhaite que ma famille reste une famille libérale et européenne. Donc je ne veux pas considérer que la bataille soit perdue, et donc je veux me battre pour qu'il y ait une ligne politique franchement européenne. Si naturellement les Républicains s'engageaient dans une voie souverainiste, populiste, qui tourne le dos à l'Europe, il est clair que nous serons dans cette affaire. Tous ceux qui ont un esprit un peu plus central, eh bien nous serons avec ceux qui défendent...
Vous avez compris quelle était la ligne européenne de Laurent Wauquiez aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a une dérive actuelle qui laisse penser que l'Europe, pour nous, ne serait pas notre destin, qu'il y aurait une sorte de retour à une recherche souverainiste, des retours aux frontières, des retours à des formes de protectionnisme excessif, etc. Donc je pense qu'il y a une dérive qu'il faut veiller. Mais ce n'est pas la première fois.
Vous déciderez quand?
À la fin de l'année.
À la fin de cette année 2018, vous direz qui vous soutenez aux élections européennes.
Ce n'est pas la première fois que dans notre famille politique, il y a plusieurs courants européens. Vous vous souvenez de Pasqua, qui était dans le même gouvernement que Mme Veil. Ce n'était pas la même ligne européenne.
Mais les centristes n'étaient pas allés...
Mme Veil avait fait sa liste de manière séparée.
Donc, il n'était pas de votre famille.
Nous verrons. En tout cas, moi, je serai avec ceux qui ont une vision et une ambition européenne pour les prochaines élections européennes. Je souhaite que ce soit mon parti, mais si mon parti se ferme, j'ouvrirai ailleurs.
Comment vous sentez en dehors des débats politico-politiciens?
Je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques personnelles, il n'y a pas beaucoup de débats d'idées, et je trouve que le débat pour le moment est assez pauvre. Il faut dire que les circonstances sont un peu exceptionnelles. On a un jeune président qui a une certaine forme d'efficacité, de séduction, qui est au travail de manière très active. Donc toute la question, c'est de savoir s'il va réussir. Il est évident
que
si...
Vous voulez qu'il réussisse?
Moi, je veux que la France réussisse. Donc je pense que personne n'a intérêt à l'échec. Donc je pense que la grande question aujourd'hui, à la fin de l'année, c'est est-ce que Emmanuel Macron a les moyens de sa politique? Et pour le moment, notre devoir, c'est plutôt de l'aider à réussir pour la France.
Année 2018 importante pour Emmanuel Macron et pour Jean-Pierre Raffarin, qui se déterminera donc à la fin de l'année dans la perspective des européennes. Leader pour la paix, c'est le nom de votre fondation à laquelle vous vous dédiez désormais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.